Toc, âme de peine, la maison hantée. C'était une très vieille maison bâtie à mi-hauteur de la colline, sur la pente qui doucement s'allonge à l'angle des deux routes. Étant petite fille, j'imaginais que cette longue petite pente herbeuse formait la traîne veloutée d'une robe de magicienne. Je pensais, oh, la maison marche dessus, elle va finir par la déchirer. Le plus proche voisinage de la maison était le cimetière. On l'apercevait là-bas, grimpant en espalier sur le versant des coteaux. Mais de la terrasse dominant la ville, et la vallée, quelle vue magnifique! On découvrait le bois, la Seine scintillante, qui entre les oseraies et les herbages, rampait en le rouvoyant, arrêté ici par un énorme remblai, là par un gros arbre penché, et plus loin par les roches et les prairies, qui semblaient se rejoindre exprès pour lui barrer le chemin. Mais ma ligne, elle s'enfilait, se rétrécissait, se faisait petite, petite, tant et si bien que elle leur glissait entre les flancs pour leur paraître aussitôt reparaître nonchalante et majestueuse. Ma mère disait, on croirait quelque bête fabuleuse qui s'étire en se jouant des obstacles. Mais le panorama devenait féerique, là où, lorsque la nuit venue, dans le lointain, la ville et les faubourgs s'éclairaient de milliers de feux mouvants reflétés dans l'eau. C'était si beau que l'on regardait en retenant son respiration malgré soi. Et pourtant, bien que la maison fût charmante, la vue unique, depuis des années et des années, le même écriteau de bois peint en gris, sur lequel tranchaient de hautes lettres noires, propriété à vendre ou à louer, qui restait suspendu à la grille. C'est que cette maison avait une histoire. Le père Mulot, un fâcheux, le plus vieil homme du village, qui logeait dans une cabane en planches, tout en haut de la côte, racontait à qui voulait l'entendre. Je l'ai vue comme je vous vois, la dame du cimetière. La nuit, elle revient dans le jardin, sous le noyer, chercher son anneau d'or. Même que des fois, son ombre est marquée sur le ciel par une large traînée blanchâtre, et que le lendemain, l'herbe est encore toute piétinée. L'histoire de la dame au cimetière, tout le monde la connaissait. Voilà plus d'un siècle. Qu'un matin, à la place du noyer planté de puits, on avait trouvé mourante une jeune femme totalement, idéalement belle et vêtue comme une reine. Impossible de savoir comment elle se trouvait là. S'était-elle blessée? L'avait-on frappée? Mystère. Et d'une voix éteinte, elle murmurait en promenant sa main sur le sol, oh, mon anneau d'or, je veux mon anneau, il faut m'enterrer avec mon anneau, mon. Et elle était morte. On avait cherché l'anneau d'or pour le lui mettre au doigt, selon son désir, mais en vain, l'anneau demeura introuvable. Et comme, malgré ça, toilette, l'inconnu ne possédait pas un sou vaillant, on l'avait enterré dans le cimetière des pauvres. C'est pourquoi il ne restait plus trace de sa tombe. Or, au village, chacun sait cela, Lorsque le vœu d'une morte n'a pas été exaucé, toute l'éternité, elle revient tourmenter les vivants. Quoi qu'il en fût, à partir de ce moment, le malheur sembla s'acharner après les audacieux qui tour à tour habitèrent la maison. Le dernier locataire, un ancien promeneur, était devenu subitement fou. Un jour, on l'avait surpris en train d'arracher toutes ses fleurs pour les repiquer la tête en bas. Comme cela, avait-il déclaré gravement, le parfum ne pourra pas s'échapper. Ma mère, qui depuis 2 ans déjà était veuve, oh, j'étais âgé, moi, d'une dizaine d'années, avait la manie d'acheter des maisons, de les revendre, et de faire bâtir et de déménager. Et soudain lui vint l'idée d'acheter la maison hantée. Une vraie occasion, on l'aurait pour presque rien. Elle en parla à Madame Texernier, sa vieille amie. Et Madame Ternier était grande, forte et barbue. Elle disait, en parlant de son mari, « Oh, devant le capitaine, quand... Non, 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 non !» En parlant de son mari. 2 points. « Défiant le capitaine portant le sabre, oui. Mais n'empêche que moi, je portais la culotte. Et plus que lui, je savais faire obéir les ordonnances au doigt et à l'œil. Ah, mais fallait voir. Oh, celui qui me fera peur, il n'est pas encore né. » Madame Texier approuva. « Vous savez, conclut-elle, les histoires de revenants, je n'y crois guère, moi. Mais t'as vu que si la dame du cimetière revient chercher son anneau d'or, le frère Maillot profite de sa société pour gauler les noix. Celle qui mange ne lui coûte pas cher. » Au mois de juillet, c'est-à-dire 1 mois plus tard, nous étions propriétaires de la maison. Ma mère la fit hâtivement réparer, puis on y emménagea. Madame Texier avait conseillé « Il faut l'habiter d'abord pour bien montrer au monde qu'il n'y a rien à craindre. Ensuite, on la louera aussi facilement qu'on voudra. » La première nuit, très tard, nous restâmes accoudés aux fenêtres pour admirer la ville si merveilleusement illuminée. On comptait les lumières qui s'éteignaient. C'était très amusant. Et pour dormir, on laissa les bougies allumées et on ferma les fenêtres. Rien ne vint trembler notre sommeil. La deuxième nuit, il en fut de même. Toute la journée, nous eûmes des visites à n'en plus finir. Les femmes disaient à ma mère, « C'est égal, il faut tout de même être brave. Moi, rien que d'y penser, j'ai la chair de poule. » Les hommes se moquaient des femmes. Et de temps à autre, ma mère, interrompant, « Prenez garde, n'allez pas effrayer ma petite fille. » Mais elle avait tort de s'inquiéter, car je n'étais pas peureuse. Mieux, j'avais tant entendu répéter combien la dame du cimetière était jolie et bien habillée, que secrètement je souhaitais la revoir. J'avais même, après l'avoir fait reluire pour qu'il eût l'air d'être en or, déposé un anneau de rideau sous le noyer. Peut-être viendrait-elle le chercher. Et comme elle serait contente, croyant retrouver celui qu'elle cherchait depuis si longtemps. La troisième nuit, Madame Texier déclara, « Nous allons finir par étouffer. » En couchant, les fenêtres fermées. Moi, vieux militaire, il faut que je respire. On laissa les fenêtres entrebâillées. Toutes les chambres se commandaient. Ma mère, je couchais près d'elle, occupait la première. Celle qui donnait sur le palier, Madame Texier avait choisi la deuxième. Et Félicie, notre servante, était reléguée tout au fond. Brusquement, comme nous commencions à nous endormir, le vent se mit à souffler avec une violence terrible. Puis, tout de suite, sa colère parut se fondre en sanglots déchirants. Madame Texier cria : Monsieur, fermez la fenêtre. Ce diable de vent, il nous ferait peur, ma parole. Et ma mère répondit : Oui, mieux vaut les fermer. Et Lucie renchérit : Oh oui, oui, on croirait que ce sont tous les morts du cimetière qui pleurent. Cependant, personne ne se leva. Veux-tu que j'y aille, maman ? Proposai-je. Chose curieuse, je n'avais pas la moindre peur, la moindre frayeur. Mais ma mère me saisit dans ses bras, me serra très fort contre elle, comme si j'eusse été menacé d'un danger. « Ne bouge pas, ne bouge pas !» fit-elle d'une voix étouffée. Et au même instant, la porte se mit à trembler, comme si du dehors, on l'eût secouée pour l'ébranler. D'un bond, ma mère fut debout. « Le verrou » murmura-t-elle. Et s'étant assurée qu'il était poussé, elle courut à la chambre de Madame Texier. Je la suivis, puis à celle de Félicie, haletante, et leur dit « Il y a un voleur qui secoue la porte. Ne perdons pas la tête. Je vais maintenir solidement le verrou en le tirant à moi, de toute manière, de toutes mes forces. Madame Ternier me prendra par la taille et tirera en arrière et Félicie tirera Madame Texier. Alors nous opposerons une bonne résistance. Et maintenant, parlons haut, comme s'il y avait un homme ici. » Et elle cria : Dites donc, monsieur Durand, il y a un voleur. Faut-il l'abattre comme un chien ou le laisser aller se faire pendre ailleurs ? Et Félicie, grossissant sa voix, répondit : Attendez qu'il entre, vous allez voir si je vais le manger, moi, le ménager. Ah, ah, tiens mon fusil à deux mains, ou à deux mains, oui. Vous entendez, monsieur, voleur. Quant à Madame Texier, naguère si vaillante, elle bredouillait : Oh, Sainte Marie-Madeleine, tous les saints du paradis, protégez-moi. » On resta ainsi à crier sur la porte jusqu'au petit jour. Et lorsque ma mère avait les doigts engourdis, Félicie prenait sa place. Elle se relayait avec d'infinies précautions. Enfin, aux premières lueurs de l'aube, on entendit sur la route les sonnailles d'une voiture de laitier. Et si c'était le nôtre, il avait la clé de la porte du jardin pour pouvoir mettre le brouhaha dedans. Félicie, lâchant la taille de Madame Texier, qui s'était failli s'écrouler, se précipita à la fenêtre et à plein poumon, elle clama : À l'assassin, au voleur, à nous, on nous tue. C'était notre laitier. Il accourut. D'autres voitures suivaient. Toutes s'arrêtèrent. Montez, montez, hurlait Félicie. Les bandits sont dû fracturer la porte en bas. « Mais la porte est fermée, » répondit le laitier. « Oh, mon Dieu, Comment faire? Se lamenta Madame Texier. Si nous sortons pour ouvrir, les brigands vont nous tuer avant de déguerpir. Oh, surtout, ne lâchez pas le verrou, dit-elle à ma mère. Je cours chercher une échelle chez le forgeron, cria le laitier. N'ayez pas peur, courage, nous sommes là. Braillèrent les autres. Bientôt, l'échelle fut appliquée au mur. Le forgeron, le laitier, 10 hommes sautèrent dans la chambre. Tous étaient armés de fourches, de bûches, de pistolets, de fusils. Ma mère s'écroula sur le lit à côté de Madame Texier, à demi évanouie, et la porte du palier ouverte. Ce fut dans un vacarme assourdissant, la ruée à travers la maison. Mais on eut beau fouiller dans toutes les moindres recoins, du grenier à la cave, on ne découvrit nulle trace de voleur. Tout le village était là. Les femmes claquaient les dents. Et l'une dit: Ben, s'il n'y a pas de voleur, alors. Il faut bien se rendre à l'évidence. C'est des revenants. Le visage décomposé, Madame Texier bredouilla. Ça, on me donnera une fortune pour coucher ici ce soir. Y a-t-il un régiment pour me passer dessus, pour me garder que je n'y coucherai pas? Il ne faut jamais essayer de lutter contre le surnaturel. C'est peut-être une punition, déclara ma mère. Le soir, nous avions réintégré notre ancien logis. Et sur le pilier de la maison hantée, on raccrocha l'écriteau, propriété à vendre ou à louer.